IDFM Radio, le média valdoisien.
Et bienvenue Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Sabrina et Christophe à la technique. Bonjour Sabrina, bonjour Christophe. Ravie de vous retrouver ce matin mardi 5 décembre pour parler de vente privée, stratégie digitale et vente en ligne. De quoi alimenter ensemble les 90 minutes de ce nouveau numéro de l'économie en direct. Nous sommes début décembre et le casse-tête des cadeaux a démarré. Vous savez, ce petit moulin dans un coin du cerveau qui ne vous lâchera pas tant que tous vos achats seront terminés. Alors ce matin, on va tenter de vous donner des idées. Et pour commencer, je donne la parole à Marie-Pierre Morel. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Jacqueline.
Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Fondatrice de Saku Saku, une start-up qui crée et distribue des sacs en tissu d'inspiration japonaise. Nous nous connaissons depuis vos débuts, Marie-Pierre, et je vous vois évoluer et avancer avec détermination. Et je suis très admirative de votre progression.
C'est gentil.
C'est ce que nous découvrirons dans quelques instants. Alors, nous devions aussi recevoir Denis Ribalkin, mais malheureusement, il m'a contacté ce matin. Il a une très grosse migraine et il ne pourra pas participer. Mais Marie-Pierre, vous vous ferez son ambassadrice.
Avec plaisir.
Et à vos côtés, Stéphania Gonzalez de Ubieta. Bonjour Stéphania.
Bonjour Jacqueline.
Très heureuse également de vous accueillir à nouveau dans nos studios. Fondatrice et présidente de Lock & Roll, la solution alternative clé en main pour emménager dans une location sans se ruiner. Je pourrais vous dire la même chose qu'à Marie-Pierre, à savoir que vous êtes venue dans l'émission au début de votre activité, que vous aussi avez relevé beaucoup de défis avec succès et qu'aujourd'hui vous allez nous présenter la nouvelle corde que vous venez d'ajouter à votre arc.
Avec plaisir.
Bienvenue donc à toutes les deux. Alors je fais un petit coucou aussi à Sonia qui est avec nous dans les studios, qui est venue assister à l'émission pour voir comment ça se passait. Bonjour Sonia. Donc bienvenue à toutes les trois dans l'économie en direct, une émission à écouter sur IDFM Radio, la radio en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Alors mesdames, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite car juste avant j'ai un communiqué de presse à lire et ensuite nous retrouverons nos bonnes habitudes avec l'intervention par téléphone d'un chroniqueur. Alors commençons par le communiqué de presse. Il s'agit d'un speed meeting business. Le 7 décembre 2023 de 19h à 23h, venez participer au speed meeting business organisé par le BNI Cœur de Pontoise en faveur de l'association Les Vitaminés. Entendez vitaminés comme un nez, clown au cœur du soin. Une soirée sous le thème de la solidarité. À l'initiative du groupe BNI Cœur de Pontoise et de son bureau, les groupes BNI 95, du 95 et du 78 s'engagent auprès des Vitaminés, une association du 95 qui permet à des clowns professionnels d'intervenir dans le service pédiatrique de l'hôpital de Pontoise en faveur des enfants malades. Un jeudi sur deux, un duo de clowns enchante les couloirs de l'hôpital Novo. Parce que le rire, le rêve et la fantaisie ont toute leur place à l'hôpital, soutenez les Vitaminés. Au programme de la soirée, un speed meeting business réunissant tous les participants, des animations tout au long de la soirée, une vente aux enchères au profit de l'association et plein d'autres surprises autour d'un buffet dînatoire préparé pour vous par des artisans locaux. Alors, les Vitaminés, une association que vous pouvez soutenir via Hello Asso et une soirée à ne pas manquer le 7 décembre.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Et c'est l'heure à présent de reprendre le fil de nos analyses géopolitiques avec notre expert valdoisien Gérard Vespierre, chercheur, conférencier et auteur de notre chronique bimensuelle « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard, ravie de vous entendre bonjour. Après cette longue pause.
Bonjour Jacqueline, ravie de vous retrouver.
Gérard, depuis ces dernières semaines, les dossiers internationaux ont continué de s'accumuler, avec cette fois le Proche-Orient et la grave attaque déclenchée par le Hamas depuis sa base de Gaza contre Israël. Nous sommes aujourd'hui au 60e jour de cet affrontement. Sans retracer les événements qui se sont déroulés depuis le 7 octobre, quel regard portez-vous à ce jour sur cette douloureuse situation ?
Nous sommes effectivement devant une situation particulièrement difficile où en 2 mois, nous décomptons probablement au total des 2 camps plus de 10 000 morts, des milliers de blessés, 134 otages israéliens encore détenus par le Hamas, d'importantes destructions à Gaza et une situation économique, sociale et politique très perturbée en Israël. Donc, après une semaine de trêve, nous avons assisté à une reprise des combats, selon le Hamas, parce que Israël a commis quelques actes militaires ne respectant pas la trêve. Selon Israël, la reprise des combats est liée au Hamas, qui n'a pas respecté la libération complète des femmes et des enfants qui étaient prévues. Et en plus, nous avons eu la douleur d'assister à un attentat à Jérusalem, 2 jours avant la fin de la trêve, où 4 morts ont été malheureusement dénombreux, et c'est effectivement lié à une opération où on retrouve les traces du Hamas. Nous sommes donc hélas repartis vers la reprise des combats, des bombardements importants cette fois dans le sud de Gaza et des libérations d'otages interrompues. La société internationale est plus que soucieuse de l'impact de la reprise des combats sur la population civile à Gaza et l'implication grandissante des rebelles houthis depuis le Yémen.
Oui, vous évoquez les réactions et émotions de la société internationale. Le président de la République et le gouvernement se sont spécialement impliqués dans les échanges diplomatiques liés à ce conflit. Comment voyez-vous la position de la France ?
Jacqueline, la France est immédiatement impliquée par nos liens avec tous les habitants de cette région et notre proximité géographique. Il y a eu des visites de ministres très rapidement. Emmanuel Macron s'est déplacé sur place, des visites aussi en Jordanie. Nous venons d'entendre à nouveau le président de la République s'exprimer depuis Dubaï et la conférence sur l'énergie et le climat, dite COP28, et sa visite au Qatar, qui est un élément, un partenaire incontournable dans cette situation diplomatique. La position de la France se résume en 3 points. Premièrement, le droit inaliénable d'Israël à se défendre. Deuxièmement, cette défense doit respecter les lois de la guerre et la protection des populations civiles. Enfin, troisièmement, cet affrontement et la guerre sont à l'œuvre depuis 75 ans. Il n'y aura pas d'issue à la pointe des fusils. La solution est politique et doit se construire autour de 2 États. Donc voilà les 3 étapes, les 3 volets de la position française. Même si nous sommes actuellement dans un sanglant affrontement, il faut absolument éviter qu'il s'élargisse et penser à l'étape d'après, la paix.
Oui, Gérard, en évoquant les risques d'une extension du conflit, vous avez mentionné il y a quelques instants l'implication des rebelles houthis dans ce fameux conflit. Pourquoi le Yémen s'implique-t-il ? Et alors, qui sont ces houthis ? Et y voyez-vous un réel risque d'extension ?
Bien, les rebelles houthis s'impliquent donc à partir du Yémen parce que leur naissance et leur action relèvent de la volonté et des décisions de Téhéran. La République islamique d'Iran a trouvé dans la région ouest du Yémen cette population montagnarde, guerrière et surtout musulmane d'obédience chiite. pour des raisons historiques liées à l'influence perse à la fin du 9e siècle, voyez-vous, donc comme la grande majorité des Iraniens chiites. Il convient d'ajouter que le reste des habitants du Yémen sont en conséquence sunnites, d'où cette différence et ces combats. La capitale du pays, le Yémen, Sanaa, est située à l'ouest. Téhéran a donc décidé en 2014 de lancer cette minorité Houthi, qui est le nom d'une famille influente de cette région, à l'assaut du pouvoir. Le président de l'époque en place fut renversé. Et la capitale et le pouvoir politique donc assuré par les Houthis. Ils font donc partie des acteurs lancés par Téhéran contre Israël, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas à partir de Gaza et les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Donc les Houthis yéménites se lancent contre Israël dans ce combat et envoient des drones et des missiles jusqu'ici interceptés. Depuis plus de deux semaines, ils ont mené des actions contre des bateaux marchands israéliens. L'armée israélienne pourrait mener des frappes sur le territoire des Houthis et leurs bases. Nous sommes aujourd'hui vendredi, Tzahal aurait même mené mardi des frappes près de la capitale du Yémen, Sanaa. En plus, les États-Unis sont en train de préparer une force internationale de protection navale pour éviter les opérations Houthis sur les navires marchands. Nous avons là potentiellement un début d'extension du conflit.
Oui, c'est ce qui est à craindre. En revanche, si le conflit ne s'élargit pas, voyez-vous une possibilité de libération prochaine des derniers otages ?
Avec cette odieuse stratégie de prise d'otages, Jacqueline, le Hamas est le maître des horloges. Il peut être contraint de relâcher les otages soit par la force, c'est-à-dire par l'armée israélienne, soit par la pression politique et aussi de ses sources de financement à partir du Qatar. Les libérations de civils, en particulier femmes et enfants, pourraient reprendre, mais la libération de militaires israéliens sera l'objet d'éprouvantes pressions. Il faudra savoir gérer l'émotion du temps.
Merci Gérard pour l'analyse de cette douloureuse et complexe situation et votre éclairage, comme à chaque fois très très inspirant. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver Gérard tous les articles et interviews télévisées accessibles sur le site donc de Gérard Vespierre, www.lemondedécrypté.com, un site gratuit, il faut juste s'abonner. Je vous dis à la prochaine fois, Gérard.
Merci et très bonne émission à vous et à vos invités.
Merci, à bientôt.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct et ce matin, je reçois deux créatrices d'entreprises que nous suivons avec intérêt depuis leur début. Et je devais recevoir un invité créateur digital, mais qui malheureusement est au fond de son lit. Il s'agit de Marie-Pierre Morel, fondatrice de Saku Saku, créatrice de sacs en tissu d'inspiration japonaise. Et Stéphania Gonzalez de Ubieta, fondatrice et présidente de Lock & Roll. La solution alternative clé en main pour emménager sans se ruiner dans une location. Marie-Pierre Morel, on commence avec vous. Alors, en quelques mots, rappelez-nous pourquoi vous avez décidé de créer Saku Saku.
Alors, c'est un peu par hasard. J'ai, comme beaucoup de personnes, des problèmes de santé. Je ne peux plus porter des choses lourdes. Et je suis tombée sur ce petit sac dont le système de fermeture, je trouvais tellement ingénieux que je l'ai adapté à ma sauce. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, je l'ai fait pour mes amis qui m'ont dit « Pourquoi tu le vends pas ?» Et c'est vrai, pourquoi je le vends pas ? Et allez hop, l'aventure est partie.
Je me souviens vous avoir reçu lors d'une émission où on parlait de lutte contre le cancer avec l'association Skin, oui, qui lutte pour lutter contre la maladie, c'est de miser sur le beau, et au fond c'est un petit peu votre cas.
Exactement, parce que le sac peut être confortable, mais rien, on reste féminine, et je veux des sacs jolis, mais ils ne sont pas uniquement beaux, faut que les, c'est ce que j'essaie de faire comprendre
pratique.
Aux gens. Ils ont
ouais,
vraiment une fonctionnalité très, précise.
Alors aujourd'hui, Sakusaku se porte bien, vous multipliez les ventes en direct, les ventes privées, racontez-nous.
Alors en fait, ce que j'ai constaté, bon, j'ai une boutique en ligne, et de temps en temps je fais des marchés dans les environs, et la question récurrente des personnes, c'est « et où est-ce qu'on vous trouve ?» Ben c'est vrai, on me trouve nulle part finalement. Mmh. Donc là, je me suis dit que j'allais, avec trois autres amies créatrices, on a réservé un pop-up store dans Paris, rue Folie Méricourt, et là, on va pouvoir nous retrouver. Donc trois créatrices dans un univers textile, mais totalement différent. On a joué sur les créatrices du monde, parce qu'il y aura Lani qui est coréenne, et elle qui travaille des broderies qu'elle fait venir de Corée, parce que je l'ai appris, la Corée est très réputée pour ses broderies de qualité. Lani fait des accessoires. En fait, il faut s'imaginer dans la journée un peu, pas austère, mais son petit chemisier blanc, etc. Et le soir, hop, on a juste à rajouter ses parures accessoires et tout de suite, ça donne une autre dimension. C'est juste incroyable ce qu'elle fait. Ensuite, il y a une autre créatrice, Eba, qui est égyptienne. Et Eba est déjà connue au Caire. Elle fait la Fashion Week du Caire et elle veut s'implanter en France. Elle fait des vêtements un petit peu, enfin pas un petit peu, haute couture on va dire, mais abordable, et avec cette petite touche délicate orientale en fait, qui fait toute cette...
toute la différence.
Oui. Et puis il y a Karina de Tentation K qui est chilienne, et elle travaille la laine mérino, c'est la soie, et elle les feutre, et elle fait des créations uniques, mais avec des couleurs qu'elle... des teintures qu'elle fait elle-même, c'est vraiment des vêtements fantastiques. Donc je suis très heureuse d'être de collaborer avec elle. Et donc moi je suis la partie, on va dire, franco-japonaise avec mes sacs dont le système de fermeture est d'inspiration japonaise.
Donc un vrai tour du monde. Donc vous connaissiez avant avec ces autres personnes, vous vous êtes rencontrées?
On s'est rencontrées lors de salons, et c'est vrai que entre exposants, il y a tout de suite, c'est tellement bienveillant, il y a tout de suite une relation d'amitié qui se crée, et puis aussi d'échanges sur nos problématiques qu'on rencontre chacune de notre côté, et puis aussi pourquoi pas monter quelque chose ensemble, c'est ce qui est arrivé.
Merci Marie-Pierre, on va faire une pause et puis on revient pour parler de ces fameux salons que vous fréquentez de plus en plus. À tout de suite.
Je suis en compagnie de Marie-Pierre Morel,
fondatrice de Sakusaku, et Estefania Gonzalez de Ubieta, fondatrice et présidente de Lock and Roll. Marie-Pierre, vous êtes avec nous ce matin parce que vous allez dans quelques jours participer à une vente privée. Je sais que vous faites beaucoup de salons. Moi, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer au Made in France, qui était une première pour vous.
Tout à fait, une première. C'était juste incroyable. C'était enfin pour moi jouer dans la cour des grands. Donc ça avait un gros, gros sens pour moi. Maintenant, la prochaine étape, ça va être la Foire de Paris au mois de mai.
Mais je vais faire un gros morceau encore.
L'idée, c'est d'avoir rencontré beaucoup de personnes qui, j'imagine, je vais les réinviter pour qu'elles viennent me voir à la Foire de Paris.
C'est ça, vous construisez votre toile petit
Exactement.
À petit.
Exactement.
Et donc, c'était une réussite au point de vue vente, le Made in France.
Oui. J'ai fait un bon chiffre et on m'a dit que pour une première fois, c'était
une réussite.
C'était
une
très
réussite.
Bien. Maintenant, les gros salons comme ça, faut comprendre que c'est une construction sur au moins trois années en fait, et c'est un investissement parce que j'ai bien vu les gens arrivaient avec leurs plans et ils savaient déjà exactement à quel stand ils allaient passer et ce qu'ils allaient acheter. Mais j'ai fait mon pitch tout le temps, les gens s'intéressaient parce qu'ils sont curieux, ils sont intéressés par ce que je propose. Donc j'espère convertir et que l'année prochaine je serai sur leur to-do list.
Oui, bien sûr. Alors ce qu'il faut dire aussi que vous m'avez confié, c'est que puisque vous avez cette activité de Sakusaku, c'est une activité complémentaire à une activité de salarié que vous avez, et cette année vous avez décidé de prendre une année sabbatique. c'est ça.
Et oui, parce que au départ, vous l'avez compris, j'ai construit ça coup à coup à partir d'un kiff de couture, on va dire, et je pensais pas que ça allait me mener si loin. Et je travaillais à mi-temps et j'aime beaucoup hein, ce que je faisais. Je suis secrétaire de direction au service politique d'APF France Handicap, c'était passionnant. Mais il y a un moment où il faut faire un choix. Et on m'a soufflé à l'oreille, il faut que tu te consacres entièrement à Sakusaku et pourquoi pas une année sabbatique. Et là, je me suis dit, ah oui, voilà, la solution.
Mais c'est bien sûr. Donc, là, ce matin, avec nous, parce que vous allez exposer avec trois autres créatrices hein, que vous nous avez présentées dans un pop-up store à Paris du 11 au 17 décembre. Alors, l'adresse, je l'ai notée quelque part.
48 c'est... Folie Méricourt.
C'est ça.
Métro Oberkampf.
Et donc, ça va être un moment convivial.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il y aura des petits fours, du champagne.
Alors, pas toute la semaine, mais j'ai décidé de faire une vente privée le mardi 12 décembre à partir de 18h30. L'idée, c'est en after work, donc toutes les personnes qui travaillent sur Paris, qui ont envie de faire des petits achats de Noël dans une ambiance conviviale et magasinée, enfin comme on dit au Québec, avec la petite coupe de champagne à la main, et surtout venir à la rencontre du créateur, ce sera le moment parfait. Et moi j'adore ces échanges et faire la rencontre de ces personnes, parce que en tant que créatrice, si vous saviez à quel point ça me nourrit.
Bien sûr, je comprends.
Et à chaque fois que mes sacs évoluent, les nouvelles collections que je fais, en fait c'est les personnes qui ont semé une petite graine dans mon esprit, et je me suis dit mais oui, c'est tellement plus pratique, etc. Mais déjà tous mes sacs répondent à une problématique que j'ai, donc soit c'est pour porter des choses, ne pas porter beaucoup de choses pour les petits sacs poignets, ou je confectionne des sacs avec une large anse justement si on a des choses lourdes à porter pour pas que ça cisaille l'épaule. Ou alors je vais penser au confort psychologique. Je veux dire, des fois on est souvent dans les transports en commun cramponné à notre sac parce qu'on n'a qu'une trouille, c'est que quelque chose tombe de notre sac sans qu'on y fasse attention, ou qu'une main indésirable me rentre, hein, faut pas se leurrer, ça arrive. Donc vraiment ces systèmes de fermeture, voilà. Sans fermeture éclair, sans bouton,
à toute épreuve.
Oui.
C'est à toute épreuve, et c'est un système hyper simple quand on le connaît, mais vraiment très ingénieux.
Voilà.
Marie-Pierre, je sais que vous voulez nous parler aussi de la confection artisanale, parce que vous êtes en lien avec un ESAT, donc oui. Je vous laisse nous expliquer.
Alors, il arrive un moment où je pouvais plus faire tout moi-même. Même si j'adore la couture, être entrepreneur,
c'est
tellement
trop bien.
Métier différent qu'il a fallu que j'apprenne. Donc je peux pas passer mon temps derrière ma machine à coudre. Et comme vous l'avez compris, j'ai un problème de santé, j'ai un handicap invisible, une maladie invalidante. Et vraiment, j'avais à cœur de trouver un atelier de confection de personnes en situation de handicap, pour que ma confection soit inclusive de A à Z, en fait.
C'est ça. Et donc, c'est un endroit que vous avez fini par trouver.
Exactement. J'ai fini par trouver un ESAT à Gennevilliers, donc parfait, circuit court. J'habite à Franconville dans le Val d'Oise. L'idée, c'est de ne pas envoyer quelque chose à l'autre côté de la France. C'est vraiment, je veux garder ces valeurs-là, en fait, humaines, et puis, on va dire écologiques, de ne pas laisser une grosse empreinte carbone.
Hein. Oui, c'est un sujet qu'on va aborder avec Estefania, parce que je sais qu'elle est très impliquée aussi dans ce sens, hein, Estefania.
Tout à fait.
Marie-Pierre, encore une question. Vous avez un projet, un grand projet pour les années à venir. Donc, expliquez-nous.
En fait, tout ce qui ressort, je vois que je vois les personnes, c'est oh, vos tissus sont magnifiques. Et c'est compliqué pour moi en tant que créatrice textile de trouver du tissu, parce qu'on est des créateurs. Nous sommes très nombreux à faire des choses différentes, certes, mais si c'est pour que on utilise les mêmes tissus, ça n'a aucun intérêt. Donc, et maintenant, je me dis, et pourquoi je les ferais pas à mes tissus? Donc, j'ai une fibre artistique, je peignais beaucoup, j'ai plein d'idées en tête. Maintenant, je pense qu'il faut que je fasse une formation, parce que c'est quand même un métier, et il va falloir que je les fasse imprimer. Donc, je profite de l'antenne pour lancer un appel. Si quelqu'un connaît un endroit où je peux faire imprimer du tissu mes propres designs, contactez-moi.
Oui, puisque vous me rappeliez tout à l'heure avant l'émission que lors de votre premier passage, vous aviez aussi lancé un appel et vous aviez été contactée tout de suite
oui,
après l'émission.
Et oui, une auditrice m'a appelée que je remercie parce que ça m'a permis de décoller Sakusaku. Donc l'impact d'IDFM 98, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est énorme pour mon créateur.
Merci Marie-Pierre. Et alors aussi, vous aimeriez exposer dans une boutique éphémère?
Oui, donc du 11 au 17 décembre avec trois autres créatrices. Notre idée, c'est faire voyager dans le monde en restant sur Paris, oui, à Oberkampf.
Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça, c'est la boutique éphémère que
tout
vous allez
fait.
Créer. Pardon, je croyais que vous en cherchiez une autre.
Mais ceci dit, on se fait accompagner parce que on veut pas juste louer une boutique éphémère et attendre patiemment que les gens rentrent dans la boutique. On veut vraiment faire en sorte, mettre une communication en place pour
créer
que
un lien.
Les gens viennent à nous et faire des ventes privées, etc. Donc on va certainement recommencer avec Ryoshi Studio, donc qui nous accompagne, on va recommencer l'expérience. Donc je fais aussi un appel à candidature aux créateurs qui seraient intéressés pour exposer dans ces conditions-là, oui. En déléguant la communication et en étant aidés de contacter Ryoshi Studio ou moi-même et je mets en contact.
Oui, on en parlera tout à l'heure de Ryoshi Studio, il n'est pas avec nous mais on va en dire un petit mot quand même parce que je crois que ça vous a bien aidé dans votre communication.
Oui.
Marie-Pierre Morel, rappelez-nous les dates à nouveau et l'endroit, l'adresse précise de votre pop-up store qui aura lieu la semaine prochaine.
Alors, pop-up store au 48 rue Folie Méricourt à Paris, métro Oberkampf.
Très bien, merci Marie-Pierre. On fait une nouvelle pause avant de donner la parole à Estefania. À tout de suite.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Merci à vous qui nous écoutez en ce moment, c'est l'économie en direct et je reçois ce matin Marie-Pierre Morel, fondatrice de Sakusaku, et Stéphania González de Ubieta, fondatrice et présidente de Lock'n'Roll. Et Stéphania, on enchaîne avec vous. Alors, c'est ce que je disais en préambule, en septembre 2019, vous décidez de créer Lock'n'Roll. Rappelez-nous dans quelles circonstances, Stéphania?
Alors, donc, moi, je suis pas toute jeune, hein, je suis pas une jeune créatrice.
Vous n'êtes pas très vieille non plus.
Bon, merci Jacqueline. Donc, j'ai eu une vingtaine d'années d'expérience professionnelle avant. Donc, j'étais cadre dirigeant dans une grande société. Et à un moment donné, j'ai eu une expérience très compliquée dans ma vie. Et en fait, c'est souvent ces occasions-là qui nous poussent à nous, à nous poser des questions sur ce qu'on veut faire ou pas faire dans l'avenir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai pas envie de garder? Et donc, cette idée de créer une société me travaillait déjà depuis un moment et je me suis dit, donc c'est le moment de le faire. Et l'idée de Lock'n'Roll, je l'avais aussi. C'était mes parents qui m'avaient soufflé l'idée. Eux, ils avaient vécu aux États-Unis en tant qu'expatriés où le concept de louer des meubles existait déjà. Ils m'en avaient parlé comme ça lors d'un déjeuner, comme on parle de tant d'autres choses. Et en fait, ça m'était resté dans la tête. Et au fur et à mesure que j'ai passé moi-même par des étapes, je me suis dit qu'en fait, c'était pas bête du tout. Et donc, que j'allais le faire.
Très bien. Alors moi, je voudrais rappeler votre parcours académique que je trouve impressionnant. Donc, diplômé HEC Paris, ingénieur des mines, polytechnique de Madrid, Black Belt Lean Six Sigma et Central Paris. Donc vraiment, vous cochez toutes les cases.
Merci.
Donc, ça vous a aidé ce parcours académique pour créer l'entreprise?
Oui, ce qui m'a aidé surtout, c'est aussi mes 20 ans d'expérience professionnelle dans des sociétés parce que, en plus, pendant ces 20 ans, j'ai fait un peu de tout. Hein. Je pense que je pourrais être astronaute aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. Et donc, ça m'a permis de voir de près comment fonctionne une société, de gérer des projets d'envergure. Et c'est tout à fait transposable à ce que je fais aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir. Une petite entreprise par rapport à une grande, c'est pas les mêmes fonctionnements. Mais bien sûr, bien sûr.
Donc, vous créez ce concept et ça marche tout de suite, on peut dire.
Alors, donc déjà pour vous dire en fait pourquoi je lance le concept. Donc moi, je constate qu'effectivement, dans la vie, il y a des étapes. Donc l'arrivée d'un enfant, des études, des mutations professionnelles. Et que ces étapes-là sont liées à des besoins qui sont spécifiques mais temporaires en termes d'ameublement. Et qu'aujourd'hui, faute d'alternatives, on se lance dans l'achat de meubles, déco, et on se lance dans des logistiques incroyables. Et tout ça pour des meubles qu'on ne veut pas conserver à terme. Et qu'au bout d'un moment, vous posez un problème. Parce qu'un meuble, c'est quand même un grand truc. Hein. Et donc, une fois qu'on n'en a plus besoin, eh bien, ça pose un problème, il faut le déménager, etc., etc.
Et souvent, on dit ça va être du temporaire, mais le temporaire
peut être très long. Voilà. Et voilà, on se retrouve avec des meubles dans une cave, on ne sait plus quoi en faire, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé Lock & Roll, pour vraiment fournir une réponse plus souple et plus responsable aussi à ces besoins temporaires d'ameublement. Hein, parce qu'aujourd'hui, on jette 2 millions de tonnes de déchets issus de l'ameublement tous les ans, alors qu'on sait très bien qu'on jette des meubles qui sont dans un parfait état d'usage. Et donc, voilà le pourquoi de Lock & Roll. Maintenant, je me rappelle plus de votre question, Jacqueline.
Je me souviens que ça a très bien marché tout de suite. Alors, très bien démarré.
Donc moi, en fait, j'ai eu la chance de lancer Lock & Roll juste 3 semaines avant le confinement. Donc ça, c'était pas prévu dans mon analyse de risque. Et donc forcément, au départ, ça a été un peu le néant, hein, mais parce que c'était le néant pour tout le monde. Je me suis retrouvée, je venais de lancer la société, et puis il y avait plus rien qui s'est passé. Et donc ça a été quand même compliqué. Il a fallu un petit peu que je revoie ma copie, voir comment je avançais sans avancer vraiment. Mais dès qu'on a été déconfiné, effectivement, c'est parti assez vite. Au départ, j'avais lancé le concept uniquement en Île-de-France. Et au bout de 7 mois, j'avais loué de l'ordre de 1000 produits. Et donc, j'avais des demandes dans d'autres départements. Et donc, j'ai commencé à ouvrir des opérations aussi dans d'autres départements. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi qu'on opère. On a loué plus de 5500 produits. Ah oui. Et on opère dans 23 départements. Donc, il y a effectivement un intérêt pour ce qu'on fait et on voit que les mentalités changent.
Changent. Mmh. Merci Estefania. On marque une pause et après, on parle de l'accueil que la presse vous a réservé.
Merci.
À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
C'est toujours l'économie en direct. Hein. Et ce matin, je reçois Marie-Pierre Morel, fondatrice de Saku Saku, et Estefania Gonzalez de Ubieta, fondatrice et présidente de Lock & Roll. Estefania, donc, on vient d'évoquer les débuts de votre entreprise, qui a connu un concept peu connu en France et qui a tout de suite séduit beaucoup d'acheteurs, enfin, en tout cas, de loueurs. Rappelez-nous les conditions de location et puis les produits que vous louez.
Alors nous, on loue tout ce qui peut servir à équiper une maison, donc il va y avoir du mobilier, de l'électroménager, même des éléments de décoration et ce qu'on appelle des articles du quotidien, par exemple un aspirateur. Et on fait des contrats, c'est un service clé en main, c'est-à-dire que c'est livré, installé, monté à domicile et repris à la fin du contrat. Les contrats peuvent démarrer à 1 mois jusqu'à 5 ans, c'est le client qui va choisir sa durée et c'est cette durée qui va déterminer le montant de la location, parce que justement ces services clés en main sont déjà inclus. Après, on essaie d'être très souple. Finalement, ce qu'on vend, c'est de la souplesse. Donc, on va partir sur une durée de, je ne sais pas, 12 mois, mais on peut raccourcir ou prolonger. On va juste adapter le montant de la mensualité. Voilà globalement le fonctionnement.
Oui, parce que vous expliquez que nous ne sommes pas tous pareils et que nous n'avons pas les mêmes besoins. On vous proposait des articles de tout style et pour tout budget.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pas la même chose un étudiant qui meuble un studio, qui a un budget limité, qu'un expatrié. On a ce cas-là aussi, des gens qui ont déjà un certain niveau de vie et qui sont là pendant 1 an, 2 ans. C'est pas la même chose. Donc, on essaye d'avoir des meubles un peu de toutes les gammes, adaptés à toutes les situations de la vie et à tous les budgets.
Et quand vous avez affaire à des expatriés, vous avez affaire à eux personnellement ou à leur entreprise ?
On a eu les deux cas. Oui. À un moment donné, on va toujours passer en direct avec la personne parce qu'elle va avoir un mot à dire sur ce qu'il veut comme type de mobilier. Donc, il y a peut-être la société qui va annoncer un certain budget, mais après, les choix de meubles vont être faits par la personne. Et d'ailleurs, on propose aussi un service de conseiller en déco parce que parfois, les gens, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent ou ils ont envie qu'on les aide à chercher. Et donc, ça, on peut faire aussi outil, c'est-à-dire proposer un déco sur, une déco sur mesure.
C'est vraiment clé en main, comme vous le dites.
Voilà, exactement. Tout à fait.
Et donc, moi, je disais avant la pause que vous avez reçu un très bon accueil de la presse, avec plus de 50 parutions dans des médias nationaux et régionaux, à forte audience, des reportages télévision. Tout je vous laisse nous raconter ça.
Eh ben oui, effectivement. Donc, j'ai reçu un très bon accueil de la presse. D'ailleurs, je vous remercie aussi, Jacqueline.
Merci.
Vous en faites partie. Et oui, tout a commencé à peine quelques mois après avoir lancé l'activité avec un JT de 20 heures de TF1. Ils m'ont appelé, c'était la veille de Noël. Moi, j'étais en train de faire des courses pour le lendemain. Ils voulaient faire un petit reportage sur la location. Et donc, voilà, donc on l'a fait. Et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à être appelée aussi pour d'autres reportages. Donc, j'étais suivie par des journalistes et des caméras pendant plusieurs semaines. C'est quand même toute une expérience.
Et oui, aujourd'hui, vous êtes référencée quelque part. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous.
Voilà, ils me voient, ils m'appellent. Et moi, je suis toujours partante hein, sur ce type d'expérience.
Bien sûr, oui.
Et c'est super, effectivement, parce que la plus grande... Bah, alors, toutes les sociétés, quand elles commencent, elles ont besoin de se faire connaître. Mais quand on commence dans un domaine qui est complètement novateur, que les gens ne vont pas forcément aller chercher d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, c'est d'autant plus important parce que ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait, quels sont les avantages de ce qu'on apporte. Et bon, voilà, ça permet aux gens de comprendre que ça existe et qu'il y a effectivement un intérêt.
C'est ça. Et comme vous disiez également, les gens, sur le moment, ils vont recevoir l'information. Ils n'ont peut-être pas forcément besoin tout de suite, mais voilà, c'est dans un coin de leur tête. Et le jour où ils ont besoin, ils font appel à vous.
C'est ça, effectivement. L'idée, c'est qu'ils sachent qu'on existe, que ce mode de fonctionnement est possible. Et puis, comme ça, quand ils en auront besoin, ils y penseront.
Bien sûr. Alors, vous avez été lauréate du réseau Entreprendre Val-d'Oise 2019. Et récemment, une belle reconnaissance du réseau Entreprendre avec leur soirée là, du 30 novembre, j'ai vu.
C'est ça, tout à fait. Donc, j'étais lauréate en 2019 et là, j'étais fournisseur en fait pour leur soirée. Donc, voilà, la boucle est bouclée.
C'est ça.
Et ça me fait très plaisir parce que c'est une organisation qui fait beaucoup pour le développement des petites entreprises. Et donc, voilà.
Oui, c'est un réseau très, très, très important. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec nous, Estefania, parce que après ces 3 années et demie d'opération avec Lock'n'Roll, vous avez lancé une boutique en ligne, la boutique des nouveaux départs.
Tout à fait.
C'est un joli nom.
Tout le monde a le droit à un nouveau départ, y compris mes meubles. Et donc oui, parce que effectivement, ça fait 3 ans et demi qu'on opère. Donc les meubles, je les ai vus partir et venir. C'est un peu comme des enfants. Hein.
Oui.
Donc et comme les enfants aussi, chacun est un peu différent. Il y en a qui très vite, elles sont replacées, donc ils sont très très demandés en location. D'autres qu'on a plus de mal à placer, et d'autres qu'on n'a pas placé du tout, soit parce qu'on a beaucoup d'unités, voilà. Et donc aujourd'hui, le fait est que on a un certain nombre de meubles qui sont à l'entrepôt. Et qui dorment, et c'est dommage quand même, ça va à l'encontre de ce qu'on dit, hein, donc de garder des meubles dans un entrepôt.
Oui, oui, complètement.
Et donc voilà, donc l'idée m'était venue de lancer cette boutique en ligne pour que ces meubles-là puissent trouver un nouveau preneur. Nous, comme Marie-Pierre, on a aussi une logique locale, hein, c'est-à-dire que même si on est dans 23 départements, à chaque fois on opère depuis une base locale, et donc les meubles de l'Île-de-France restent en Île-de-France, ils ne partent pas à Marseille.
Ils ne vont pas, oui, c'est ça, on reste dans l'empreinte carbone, c'est important.
C'est ça. Et donc là, la vente concerne pour commencer les meubles en Île-de-France. Il y en aura d'autres. Donc, spoiler, la prochaine sera dans le Nord. Mais voilà, à chaque fois, on vend les meubles qui vont rester quand même dans la région.
Alors, vous parliez de ces régions. Je me souviens aussi que rapidement, donc, vous avez pu fournir plusieurs départements. La liste s'est allongée, j'imagine.
Oui, on est sur 23 départements aujourd'hui. Donc, globalement, autour des grandes villes française, donc en Île-de-France, bien évidemment. Après, on est à Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Marseille, Aix-Toulon, Strasbourg, Metz, voilà.
Donc, très bien. Vos besoins aujourd'hui, quels sont-ils ?
Alors déjà, le besoin éternel de faire connaître l'activité d'expliquer qu'on a cette activité de location qui a quand même qui a son fonctionnement, qui est quand même complémentaire à celui de l'achat. Et maintenant, l'existence de cette boutique en ligne où nous souhaitons donner une issue à tous ces meubles qui dorment à l'entrepôt.
Et vous pensez que, d'un point de vue au niveau de la profession, vos besoins se retrouvent avec d'autres personnes ou vous avez des besoins très spécifiques ?
Alors, c'est difficile à dire parce que, vous savez, c'est un domaine qui est quand même très, très, très récent. Mmh. Donc, on n'a pas forcément tous ces reculs qu'on peut avoir dans d'autres domaines d'activité qui opèrent depuis un certain temps. On apprend un petit peu en marchant.
Oui. Voilà. Mmh, mmh, je comprends. Stéphania, je propose qu'on fasse une nouvelle pause encore et je voudrais qu'on parle plus précisément justement du début de cette boutique en ligne, parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer quand on crée une boutique en ligne.
Tout à fait.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Si vous êtes toujours avec nous, c'est l'économie en direct et ce matin je reçois Marie-Pierre Morel, fondatrice de Saku Saku, et Estefania González de Ubieta, fondatrice et présidente de Lock'n'Roll. Estefania, donc votre actualité aujourd'hui, c'est le lancement de votre boutique en ligne, www.lockandroll.shop, et pour vendre les meubles d'occasion ou les dernières unités qui dorment à l'entrepôt. Créer une boutique de vente en ligne, ça me paraît compliqué, non?
C'est tout un métier, c'est tout un art. Alors, moi, j'avais quand même déjà mon premier site vitrine, lockandroll.com, qui est le site spécialisé dans la location. Et sur ce premier site, pour le coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il a fallu quand même imaginer comment il allait être structuré. Il faut que ce soit attirant, que les gens comprennent ce qu'on fait, que ce soit facile à utiliser, etc. Ça a été un peu plus court pour le deuxième, parce qu'il y avait déjà toute cette expérience-là. Et que, bon, finalement, le processus avait un peu mûri dans ma tête déjà avant de lancer la boutique.
Parce que ça demande quand même un cahier des charges assez pointu, à savoir le mode de vente mis en place, les informations affichées sur les fiches produits, la gestion des tarifs.
C'est ça. Et c'est là, effectivement, où je dis qu'effectivement, le fait d'avoir déjà...
Pouvoir réfléchir.
Site, j'avais déjà passé beaucoup de temps à créer les fiches produits. Finalement, c'est les mêmes fiches produits que j'avais déjà, donc j'ai pu rapidement transposer ça. Mais effectivement, c'est pas le même métier de vendre que de louer non plus. Donc oui, il y a toute une logique tarifaire à penser par rapport à la livraison aussi. Bon, j'ai quand même une logistique aussi qui tourne déjà, donc
bien
ça
sûr,
c'était.
Bien sûr.
Plus simple, mais oui, il y a du travail. Oui,
c'est ça, parce qu'il faut que les prix soient à l'instant T tout le temps. Enfin, si vous faites des remises ou des promotions éventuellement. Tout à l'heure, on parlait de. Alors, je ne sais plus si c'est en off ou dans le studio. On parlait de concurrence. Il y a forcément une concurrence pour la vente en ligne.
Oui.
Quelle est votre valeur ajoutée?
Alors, pour la vente en ligne, il y a ce qu'on parle de meubles d'occasion. Il y a des plateformes qui vendent de meubles, mais c'est souvent de meubles qui appartiennent à un particulier et qui vont passer dans les mains d'un autre particulier. Oui. Oui, donc, c'est des mises en relation. Nous, c'est nos meubles à nous. Donc, ces meubles-là, moi, je sais qui les a montés, comment il les a montés. Ils ont été nettoyés,
Vous connaissez leur passé.
Je connais leur passé. Donc, je ne fais pas le passe-plat, en fait. C'est vraiment nos meubles que je vais mettre à disposition de ceux qui voudront les acheter. Hein, mais c'est quand même une différence. Donc, on a d'autres garanties par rapport à quand c'est un particulier, vous ne savez pas s'il a mis toutes
absolument,
les
choses. La façon dont il a été traité.
Voilà,
absolument.
Exactement.
Oui, là, vous avez la fiche technique du produit de A à Z.
On connaît sa vie.
Oui. Alors maintenant, je vais m'adresser un petit peu à toutes les deux, parce que dans votre domaine, je sais que Marie-Pierre a fait appel donc à un créateur digital. Parlez-nous de ce créateur digital, Marie-Pierre.
Donc Denis Ribalkin de Ryoshi Studio. En fait, au départ, j'ai fait une petite boutique en ligne avec les moyens du bord. C'était très bien pour démarrer. J'avais 15 visites par jour et au plus je grandissais, et en fait. Denis, que je connais personnellement, m'a dit, tu sais, si tu veux passer la vitesse supérieure, il faut investir dans ton site internet, il n'y a pas de secret. Et du coup, je lui ai confié mon site, sakusaku.paris. Je ne peux pas parler de ce qu'il a fait parce que c'est technique et je ne suis pas du tout du métier.
Je peux juste
parler en tant qu'utilisatrice de son site. Tout ce que moi, je vois, tout ce qui m'importe, c'est que je suis passée de 15 visites par jour, en ce moment, 1500. Donc,
formidable.
Il n'y a pas photo, il y a eu un travail de SEO, de référencement, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas le résultat est là. Maintenant, ça me fait, je suis face à une nouvelle problématique. Le contenu que j'avais mis dans mon site correspond à un petit site. Maintenant, il faut que je mette plus de qualité.
Faut passer à la vitesse supérieure à
voilà.
nouveau.
Donc, ouais. Je vais confier à Ryoshi Studio de me refaire du beau contenu, quelque chose qui va avec le site qu'ils m'ont fait.
C'est ça. Donc, Denis Ribalkin, qui aurait dû être avec nous ce matin et qui malheureusement n'a pas pu venir, conçoit des stratégies pour les marques dans le but de leur faire gagner des utilisateurs et clients sur le web, ce que vous avez testé positivement.
Exactement.
Complètement.
Et j'ai eu la chance qu'ils me refassent aussi mon branding, parce que je ne sais pas si vous voyez mon logo de départ,
oui.
C'est une grue japonaise bien sûr, qui est sur un pied,
qui est très élégante,
prête à s'envoler. Ouais. J'aime beaucoup la symbolique de liberté, etc. Parce que mon sac, on a les mains libres. Et mais bon, j'ai pas réfléchi parce que je n'étais pas du métier. Ce logo est à vertical, donc il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de le mettre dans une pastille. Donc les pattes de ma grue étaient souvent coupées. Donc il m'a dit, écoute Marie-Pierre, il faut leur changer. Je fais, oh non, ne change pas ma grue. Il dit, laisse-moi, je vais te proposer quelque chose. J'étais réticente, mais il m'a proposé cette grue dans un rond qui enfin s'envole. On voit pas les pieds, mais et j'aime beaucoup
cet
message.
Envolé.
Voilà, oui, ça y est, la grue s'est envolée, sakusaku.
Un peu comme vous, voilà.
Exactement,
oui, absolument.
Et, ouais, ouais. Et là où ma couleur était bleue, il l'a mis dans un rond rouge que je. Moi, quand il m'a dit rouge, je me suis dit, mon Dieu, ça va être agressif. Et là, le rond rouge, ben, je vois le drapeau japonais,
ah
mes
oui.
sacs d'inspiration japonaise. Il a su parfaitement trouver mon identité visuelle. J'ai été bluffée.
C'est ça, il a sublimé votre idée et puis il vous a remis complètement au centre du débat,
voilà.
Quelque part. Alors, Estefania, vous faites appel à ce genre de service également?
Alors, moi, j'en avais fait appel quand j'ai créé le premier site.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est un métier, hein, et
oui.
que chacun son métier, finalement. Pas pour le branding. Là, pour le coup, j'avais inventé mon logo moi-même. Bon,
oui.
Et il est toujours le même. Mais sur la partie, effectivement, comment optimiser un site web pour que les gens viennent, pour qu'il y ait des visites. Oui, oui, j'en avais fait appel et je reconnais l'utilité.
L'utilité, hein, oui.
Parce que, voilà, comme je vous disais, c'est un art, finalement, c'est un métier. Et
oui, on peut pas tout faire tout seul. On peut avoir les idées, mais après, il faut avoir ce genre de créateur avec soi pour pouvoir sublimer, comme je disais, sa propre idée. J'espère qu'on pourra recevoir Denis une prochaine fois, hein, qu'il ira mieux. Donc, il y a l'impact de l'intelligence artificielle. Vous y faites appel, Estefania?
Alors, non, pas
non,
vraiment encore.
Pas aujourd'hui.
Je pense qu'il va falloir s'y mettre, hein, parce que
c'est incontournable.
Là pour rester. Tout à fait, c'est incontournable.
Et Marie-Pierre, les autres créatrices qui vont vous accompagner, elles ont également un créateur digital?
Non. Karina de Tentation K n'est pas du tout visible sur les réseaux sociaux. C'est un choix parce qu'elle est toute seule. Après, il faut voir sa priorité et l'objectif qu'on a pour sa marque. Lulgardia, Lani, oui, je pense que elle, clairement, son objectif, c'est de se digitaliser. Et Eba de Romana Moda également. Donc,
elle vous voit quand même évoluer aussi par rapport à elle.
Oui.
Donc, ça peut leur donner des idées.
Ben, c'est comme ça que ça. Qu'on se projette aussi, parce que des fois, quand on est toute seule dans sa bulle, c'est en voyant les autres qu'on se dit, ah, mais oui, je n'y avais pas pensé, mais oui, il faut faire ça. Donc.
Alors, donc vous êtes avec nous toutes les deux aussi. On a parlé au tout début de cadeaux de Noël. Estefania, on peut aussi trouver des cadeaux sur votre vente en ligne.
Bien sûr. Donc il y a des meubles de tout type et conditions, mais il y a aussi des petits packs déco. Donc j'ai créé des packs en associant quelques coussins, une lampe, voilà, en faisant un petit pack. Je le mets à côté des meubles qui avec
oui,
lesquels ça
donne
s'associe.
Des idées. Oui.
Ça donne des idées. On peut les acheter effectivement.
Très bien. Et donc, le début de cette vente en ligne, ça, vous en êtes satisfaite?
Oui, je viens de lancer la boutique. Donc, c'est tout récent, mais effectivement, on a déjà vu un certain
que
nombre
ça démarre
meubles.
Bien. Très bien.
On touche du bois.
Et vous, Marie-Pierre, votre production, elle est de combien de sacs, on va dire, quand vous faites une exposition comme ça au Made in France?
Quand je fais une grosse exposition, c'est entre 40 et 50 sacs qui partent.
Oui.
Les marchés de Noël sur deux jours, oui, c'est entre 20, oui.
Et c'est tout ce que vous produisez ou vous en produisez plus encore pour avoir tout le temps du stock?
J'en produis dès que je peux. Oui. C'est ma passion, la machine à coudre. C'est mon sas de décompression. J'ai 10 minutes, hop, je vais dans mon atelier, je vais coudre un petit truc.
Ah oui, c'est une vraie passion. Ouais. C'est une vraie passion. Bien, bah écoutez, mesdames, je crois qu'on a fait le tour hein, de votre activité. On fait juste une pause et puis on se retrouve pour une conclusion. À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Si vous nous rejoignez, c'est un petit peu tard hein, parce que nous vous avons parlé jusqu'à présent de deux créatrices, Marie-Pierre Morel, Saku Saku et Stéphania Gonzalez de Ubieta, présidente et fondatrice et présidente de Lock and Roll. Stéphania, je reviens à vous. Je suis un peu décousue ce matin, mais bon. Je voudrais que vous nous donniez le nom de votre site pour cette vente en ligne que vous venez de lancer.
Alors la vente a lieu sur le site www.lockandroll.shop.
C'est ça, très bien. Merci Stéphania. Je rappelle que vous êtes une personne pleine d'énergie, pleine de dynamisme et qu'on peut pas imaginer autre chose que la réussite de votre site de vente en ligne.
Merci Jacqueline.
Et donc là, c'est bientôt la fin de notre émission, mais comme selon la tradition, voilà, je redonne la parole aussi à chacune de mes invitées. Donc Marie-Pierre Morel, je crois que vous avez une annonce aussi à nous faire pour cette vente privée Folie Méricourt.
Alors voilà, cette vente privée donc qui aura lieu le mardi 12 décembre en afterwork. Il reste quelques places disponibles parce qu'évidemment les places sont limitées. Donc j'invite à toutes les personnes qui travaillent sur Paris et qui veulent avec des copines faire un petit peu leur shopping de fin d'année, une coupette de champagne à la main. Inscrivez-vous sur le site sakusaku.paris et en plus, le jour J, le mardi 12 décembre, il y aura une petite surprise, un tirage au sort parmi les convives et pour gagner un sac.
Voilà, un très beau sac qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prix de vos sacs, Marie-Pierre?
Alors, ça va de 37 euros les sacs qui se portent au poignet qui sont réversibles. Après, je décline en soirée, etc. Et mes grands sacs, toujours avec ce système de fermeture original, la grande danse dans la plus petite, jusqu'à 75 euros, qui sont entièrement doublés, avec des poches. Enfin, j'y mets beaucoup de soin et d'amour dans la confection.
Des sacs qui partent très vite aussi, oui, même les grands.
Ouais. Oui, au départ, je faisais que des petits, mais je m'aperçois que les grands sont en train de prendre le pas sur mon sac phare, on va dire, mon produit signature.
Ils ne sont jamais assez grands, les sacs, en fait.
Finalement, oui.
Et toujours avec le même système d'attache, hein, on est bien d'accord.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bien, plein de succès hein, pour cette vente privée Folie Méricourt. Stéphania, vous avez aussi peut-être un mot de conclusion à nous donner avant de se quitter.
Alors nous, on va vous proposer aussi un petit tirage au sort. Donc on a un site, un compte Instagram, lock-8and-8roll.
Oui.
Donc sur tous les nouveaux inscrits, on va faire un petit tirage au sort de 30 euros à utiliser sur notre boutique en ligne, lockandroll.shop.
D'accord, et donc une offre qui se retrouvera bien évidemment sur le podcast de l'émission et dont je pourrai parler dans le résumé de l'émission.
Merci.
Merci mesdames d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. On vous souhaite le meilleur hein, pour la poursuite de votre parcours et puis à une prochaine fois pour nous annoncer encore de nouvelles choses pour votre entreprise.
Merci de votre
Jacqueline.
Accueil.
Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour tous vos messages d'encouragement qui font chaud au cœur. Merci Sonia de nous avoir accompagnés ce matin. Et puis merci Sabrina pour la technique. Retrouvez cette émission comme bon vous semble sur le site de la radio idfm98.fr. Je vous dis à bientôt. Belle journée et excellente semaine.